Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump vont se rencontrer. Ils vont discuter de la manière de gagner la guerre et de forger une paix durable lors de leur rencontre. C'est ce qu'a déclaré un responsable du cabinet du Premier ministre. Oman a obtenu le soutien de plusieurs pays du Golfe pour une proposition visant à autoriser l'Iran à percevoir des frais volontaires auprès des navires transitant par le détroit d'Ormuz. Des diplomates américains ont quitté la salle alors que leurs homologues français prenaient la parole aux Nations Unies, c'était hier. Et enfin, en Belgique, un jeune homme de 18 ans avait prévu de perpétrer un attentat lors de la marche des fiertés en 2024 à Louvain. Et on commence ce journal évidemment avec la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Le Premier ministre Netanyahou va aborder la question de la montagne de la pioche, un Pickaxe Mountain en Iran, lors de leur rencontre, car il veut que je reste impliqué, c'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump. S'adressant à Fox News, Donald Trump a déclaré « Je n'ai pas besoin que Bibi me dise ce qui concerne les renseignements sur le site nucléaire iranien ». Le président américain a exprimé une certaine frustration face au fait que Benjamin Netanyahou évoque publiquement les travaux de construction iraniens sur le site. Pourquoi ne me le dis-tu pas simplement? Pourquoi fallait-il que tu le dises au monde entier? Ce sont les mots de Donald Trump. Donald Trump qui a également déclaré « Ce n'est pas un gros problème, nous avons détruit leur site nucléaire et nous devrons détruire Pickaxe Mountain s'il ne conclut pas d'accord ». Il a également affirmé qu'il pourrait détruire la plupart des ponts iraniens en moins d'une heure et toutes leurs centrales électriques en une journée. Donald Trump a également affirmé avoir sauvé Israël en mettant un terme au programme nucléaire iranien. « Si je n'étais pas président aujourd'hui, Israël n'existerait pas », a déclaré Donald Trump. Et puis justement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump discuteront de la manière de gagner la guerre et de forger une paix durable lors de leur rencontre d'aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré un responsable du cabinet du Premier ministre. Alors que le Premier ministre se rend à la Maison Blanche à l'invitation du président Trump, rares sont les alliés qui se sont rencontrés aussi souvent et rares sont les alliances qui ont accompli autant en si peu de temps, a déclaré ce responsable du cabinet du Premier ministre. Le président Trump et le Premier ministre discuteront des enjeux majeurs de notre époque et de la manière de tirer parti de notre grande alliance pour gagner la guerre et instaurer une paix durable, a conclu ce responsable. La paix par la force. Et puis Donald Trump a lui déclaré avoir suspendu l'élargissement des frappes américaines contre l'Iran afin de laisser une chance aux négociations, le tout en avertissant que l'option militaire restait sur la table en cas d'échec des discussions. Dans un entretien accordé à Axios, Donald Trump a indiqué que les pourparlers portaient sur un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à relancer des négociations plus larges sur le programme nucléaire iranien. Interrogé sur le délai qu'il était prêt à accorder à la diplomatie, Donald Trump a répondu « Pas beaucoup de temps, soit cela avance rapidement, soit pas du tout ». Donald Trump a expliqué avoir décidé vendredi de suspendre les frappes après que plusieurs pays impliqués dans la médiation lui ont demandé de laisser une nouvelle chance aux négociations. « Tous ceux qui traitent avec l'Iran m'ont demandé de ne pas tirer », a-t-il affirmé, ajoutant qu'il pensait que Téhéran souhaitait parvenir à un accord. Et puis le ministre de la Défense Israël Katz, de son côté, affirme que les États-Unis empêchent Israël de frapper des cibles énergétiques iraniennes. « Nous souhaitons vivement frapper les cibles énergétiques iraniennes. Les États-Unis ne donnent pas leur accord pour l'instant, craignant que l'Iran n'attaque les pays voisins, ce qui provoquerait une crise pétrolière mondiale », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la 14e chaîne. « Est-ce que, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à faire reculer l'Iran de 40 ans ?» a ajouté Israël Katz. Et puis pour terminer, autour des États-Unis, de l'Iran et d'Israël. Le vice-président américain J.D. Vance a lui annoncé qui a récemment formulé à l'égard d'Israël des critiques frôlant la théorie du complot. Il sera bien présent à la rencontre entre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. Après avoir assisté à la cérémonie commémorative en l'honneur du défunt sénateur américain Lindsey Graham, Benjamin Netanyahou s'entretiendra donc avec des hauts responsables américains. Benjamin Netanyahou a pris d'ailleurs la parole hier soir lors d'un dîner commémoratif organisé en l'honneur de Lindsey Graham. Oman a obtenu le soutien de plusieurs pays du Golfe pour une proposition visant à autoriser l'Iran à percevoir des frais volontaires auprès des navires transitant par le détroit d'Ormuz, tout en empêchant Téhéran d'exercer un contrôle exclusif sur cette route maritime stratégique. Selon une source du Golfe citée par Reuters, le projet s'inspire du modèle en vigueur dans les détroits de Malacca, où les navires sont invités à contribuer volontairement au financement des services de navigation, de protection de l'environnement et des opérations de recherche de sauvetage. Cette initiative intervient alors que les tensions restent vives autour du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. L'objectif est de garantir la libre circulation maritime tout en répondant aux revendications iraniennes concernant la gestion de cette voie stratégique. Des diplomates américains ont quitté la salle alors que leur homologue français prenait la parole aux Nations Unies. Ce après que la France, proche de Washington, eut critiqué le bilan de l'administration Trump en matière de droits de l'homme. Une décision surprise prise lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'Ukraine et qui fait suite à l'opposition des États-Unis à l'octroi d'un nouveau mandat de 4 ans au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Türk. La reconduction de ce dernier vendredi a reçu un soutien massif, notamment de la part de la France. Ce départ des États-Unis reflète non seulement les relations de plus en plus tendues entre le président Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron, mais aussi des tensions plus générales entre les États-Unis et l'Europe. Celles-ci portent notamment sur les doutes quant à l'engagement de Donald Trump envers l'OTAN, les éventuels changements dans le déploiement des troupes américaines en Europe et la volonté de Donald Trump de contrôler le Groenland qui appartient au Danemark, membre de l'OTAN. Donald Trump s'est plaint que les Européens qui n'avaient pas été consulté n'ait pas aidé les États-Unis pendant la guerre contre l'Iran. Dans ce contexte de tension, Emmanuel Macron a tout de même pris l'initiative de renforcer les capacités militaires de l'Europe et de garantir un parapluie nucléaire en tant que l'une des deux puissances nucléaires du continent aux côtés de la Grande-Bretagne. Retour en Israël maintenant, où le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné Tsahal d'étendre ses opérations contre les groupes terroristes palestiniens en Judée-Samarie et de préparer la prise de contrôle d'un nouveau camp de réfugiés à l'issue d'une réunion sécuritaire tenue avec le chef d'état-major Eyal Zamir et les principaux responsables de la défense israélienne. Selon un communiqué du ministère de la Défense, cette nouvelle opération devra suivre le modèle appliqué dans les camps de Jenin, Toulkarem et Nour al-Shams, où les infrastructures terroristes ont été démantelés avant le maintien d'une présence permanente de Tsahal. Le terrorisme palestinien tente de relever la tête, a estimé Israël Katz, justifiant la poursuite de l'offensive en Judée-Samarie. La réunion a rassemblé les responsables des directions des opérations et du renseignement de Tsahal, des représentants du Shin Bet, du Kogat, de la police israélienne en Judée-Samarie, ainsi que plusieurs hauts responsables de la défense. Toujours dans l'état hébreu, la haute cour de justice semblait presque certaine d'invalider une loi récemment adoptée interdisant l'arrestation des réfractaires haredim après avoir consacré à peine une heure et demie à l'examen des recours formés contre cette législation, période durant laquelle les juges n'ont pratiquement pas contesté les arguments selon lesquels cette loi est discriminatoire et devrait être invalidée. Les représentants du conseiller juridique de la Knesset et du procureur général ont tous deux déclaré que la loi devait être annulée, le premier faisant valoir que la manière dont la loi avait été adoptée constituait une grave violation de la procédure de la Knesset, et le second affirmant que la loi instaurait une application discriminatoire et inconstitutionnelle au sein du système de justice pénale. Contrairement à de nombreuses audiences de la haute cour concernant des textes législatifs de la Knesset, les 9 juges siégeant au collège n'ont posé que très peu de questions aux avocats représentant les requérants ni aux avocats de la Knesset et du procureur général, ce qui indique qu'ils partageaient largement les arguments juridiques avancés contre la loi. L'aéroport Ben Gurion fait face à d'importantes perturbations en pleine période estivale et de vacances estivales. Selon une analyse du système Tel Aviv Flight, seuls 31% des vols ont décollé à l'heure entre le 20 et le 27 juillet, tandis que les retards et les annulations se multiplient sur les 3499 vols analysés. 1089 ont respecté leur horaire de départ. En revanche, 709 vols ont été retardés de 30 minutes à 1 heure, 479 de 1 heure à 2 heures et 363 de plus de 2 heures. 83 vols ont tout simplement été annulés au cours de cette période. En Belgique maintenant, un jeune homme de 18 ans avait prévu de perpétrer un attentat lors de la marche des fiertés en 2024 à Louvain, c'est ce qu'écrit ce matin Etlatstenius. Il comparaîtra en novembre devant la justice aux côtés d'un autre prévenu. D'après le quotidien irlandophone, la police a repéré le jeune homme alors qu'il a tenté de se procurer des armes via le service de messagerie instantanée Telegram. Il a alors été mis en contact avec un agent sous couverture. D'après l'enquête, le suspect radicalisé depuis un certain temps et un complice espérait faire le plus de victimes possible. Après plusieurs mois de détention provisoire, le jeune homme a été libéré d'abord sous bracelet électronique. Âgé aujourd'hui de 20 ans, il doit se plier à une série de conditions. Et on termine avec les chaleurs en Belgique. La phase d'avertissement du plan forte chaleur reste activée dans le plat pays jusque la nuit de samedi à dimanche. C'est ce qu'annonce l'Institut Royal Météorologique aujourd'hui. Le code jaune reste en vigueur dans tout le pays dans les prochains jours, à l'exception de la côte pour les journées de jeudi à samedi. Les températures devraient atteindre jusqu'à 30 degrés aujourd'hui, 34 à 35 demain et encore jusqu'à 32 dans l'est du pays jeudi. Selon l'IRM, de l'air temporairement plus frais gagnera le pays en fin de semaine, mais les températures maximales resteront généralement supérieures à 25 degrés à l'intérieur des terres. Un nouveau réchauffement est par ailleurs attendu à partir de dimanche. Le code jaune est valable de mardi à dimanche minuit, sauf sur la côte où les voyants sont au vert pour jeudi, vendredi, samedi. En phase d'avertissement, on recommande d'être attentif aux personnes âgées et vulnérables. Il est conseillé de les faire boire davantage et de ne pas les laisser en plein soleil.